Vous écoutez, on lit pour vous.
Patrons inquiets, travailleurs anxieux, une chronique d'Yvon Laprade, parue le 16 février 2025, dans La Tribune. Le monde du travail a le moral dans les talons ces jours-ci. D'un côté de la clôture, il y a les patrons inquiets, qui craignent de devoir effectuer des mises à pied pour traverser la tempête Trump. De l'autre côté, il y a les employés, leurs employés, qui se demandent si leur nom sera pigé quand viendra le temps de rationaliser les effectifs. C'est beaucoup de stress, convient Manon Poirier, directrice générale de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées, CRHA. Elle ajoute « C'est aussi beaucoup de bouleversements, à la fois pour les travailleurs et les organisations. » Elle parle d'essoufflement collectif, d'un haut niveau d'anxiété, tout cela dans un contexte extrêmement tendu avec cette menace de tarifs punitifs. Un sondage réalisé par l'Ordre début février auprès de 500 conseillers en ressources humaines et en relations industrielles vient confirmer ses appréhensions. On y apprend, entre autres choses, que 16% des organisations entendent réduire le nombre de personnes à leur emploi si les tarifs sont mis en œuvre et que 43% des répondants sont dans l'incapacité de se prononcer sur les conséquences à court terme. Il y aura forcément une réduction des investissements en ressources humaines. Gel des embauches, gel des primes au rendement, budget réduit consacré au développement des compétences et de la formation, ainsi qu'au développement technologique ou numérique. C'est clair, les employeurs, pour des raisons évidentes, ont le pied appuyé sur le frein. Ils attendent, ils veulent voir ce qui va se passer. Inutile de préciser que ce contexte, pour le moins défavorable, a un effet déstabilisant pour les employés qui craignent pour leur emploi et leur avenir. C'est démotivant. Ça ne stimule pas la productivité. Cela risque également de poser des enjeux lors des prochaines négociations syndicales patronales. Demandera-t-on aux syndicats de faire preuve de modération dans leurs demandes salariales? Cette crise tarifaire est celle qui risque de frapper notre économie en raison de ces derniers tarifs « Made in USA ». Se fera-t-elle sur le dos des salariés qui se feront proposer de se serrer la ceinture pour permettre à leur employeur de garder la tête au-dessus de l'eau? Scénario et réalité. Ce n'est pas simple. Rien n'est simple en ce moment. Comment faire alors pour garder la tête froide avec toutes ces déclarations venant de la Maison-Blanche à Washington? L'incertitude ne contribue pas à améliorer le climat et on peut être porté à se faire 1000 scénarios, reconnaît Manon Poirier. Aussi invite-t-elle les organisations du travail à prendre le temps de rassurer leurs employés. Elles doivent avoir un plan de match, faire preuve de transparence, ne pas hésiter à expliquer aux employés ce qu'elles comptent faire. Ça s'appelle de la communication. C'est dans ce contexte incertain que le rôle des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles, au nombre de 12 000 au Québec, prend tout son sens. Climat anxiogène. Le climat social au Québec est devenu anxiogène à cause de ce petit monsieur obsédé par les tarifs qui s'amuse-t-il vraiment, à répéter, comme un perroquet, que le Canada deviendra bientôt le 51e État américain. Le monde du travail n'échappe pas à cette morosité ambiante. La santé mentale des travailleurs est mise à mal. L'onde de choc est ressentie jusqu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, et sur la côte nord, deux régions fortement identifiées à l'aluminium et à l'acier. Là-bas, les grands syndicats, qu'on pense à Unifor ou aux Métallos, sont aux premières loges pour prendre le pouls de leurs membres. Chaque jour, les mauvaises nouvelles prennent le dessus sur les bonnes. Pour bon nombre de travailleurs, la crainte d'être mis au chômage est bien présente, on le devine bien. Il faudrait aussi parler de l'industrie forestière, grande exportatrice de 2 par 4 chez nos voisins du Sud. Il ne faudrait pas non plus oublier l'industrie aérospatiale, concentrée dans la grande région de Montréal jusqu'à Mirabel. Pour tout dire, c'est tout un pan de notre industrie manufacturière qui pourrait être impacté par les nouvelles règles du jeu qui feront mal, au bout du compte, tant aux exportateurs qu'aux importateurs. Déjà, aux États-Unis, de gros joueurs, qu'on pense au PDG de Ford, Jim Farley, commencent à critiquer ouvertement la nouvelle administration Trump. Le PDG s'inquiète que ces tarifs contribueront à créer beaucoup de coûts et de chaos. Lors d'une conférence d'investisseurs, mardi dernier, il a déclaré « Soyons honnêtes, à long terme, un tarif de 25 % sur les importations en provenance du Mexique et du Canada créerait un vide dans l'industrie automobile américaine que nous n'avons jamais connu. » On en est là. L'ennui, c'est que personne dans l'entourage du président milliardaire ne semble en mesure de le freiner dans son élan protectionniste. Pendant ce temps, le non-élu Elon Musk continue de déraper à droite. La démocratie a foutu le camp depuis le 20 janvier. Qui aurait pu penser qu'en l'espace d'un mois, ce pays de plus de 340 millions d'habitants allait autant déraper? Et dire qu'on commençait à peine à oublier les ravages de la pandémie de mars 2020. Toute crise finit par finir, mais celle-ci est détestable et non sollicitée. C'était « Patrons inquiets, travailleurs anxieux », une chronique d'Yvon Laprade, parue le 16 février 2025 dans La Tribune.
Don Quichotte et la bienveillance radicale. Un texte de Rima El-Khoury, paru le 16 février 2025 dans La Presse. Que faire devant une crise de l'itinérance qui s'aggrave à un point tel qu'on laisse des personnes vivant avec une déficience intellectuelle dans la rue? Devant une bureaucratie si lourde que des gens ont le temps de mourir 1000 fois avant de recevoir l'aide dont ils ont besoin? Devant des idéaux de la révolution tranquille qui s'estompent pour faire place à des logiques administratives inhumaines? D'abord, il faut s'indigner, croit Guillaume Ouellet, chercheur au Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales, les discriminations et les pratiques alternatives de citoyenneté, CREMIS. S'indigner et ne pas baisser les bras en s'inspirant de Don Quichotte et du Hope Punk. Pour redonner espoir aux intervenants sociaux qui s'essoufflent et se sentent de plus en plus impuissants devant la détresse extrême qu'ils côtoient, le chercheur et son équipe viennent de lancer un projet de recherche qui les invite à être radicalement bienveillants, quitte à défier le système s'il le faut. Pour mieux faire leur travail, on les encourage à développer des pratiques de résistance afin que l'humanité prime toujours la bureaucratie. L'approche non conventionnelle mènera à la création d'une sorte de guide d'autodéfense contre la morosité sociale ambiante qui prendra la forme d'un roman graphique. Au cours des prochains mois, le chercheur compte le présenter dans des ateliers destinés tant aux étudiants en travail social qu'aux intervenants du réseau de la santé et des services sociaux et du milieu communautaire. Il participera également à un colloque consacré aux pratiques dérogatoires dans les domaines d'intervention au prochain congrès de l'ACFAS. Lancé en janvier 2025, le projet original, dirigé par Guillaume Ouellette, a déjà reçu un accueil enthousiaste. Les intervenants sont vraiment emballés. Ils me disent qu'ils ont besoin d'un nouveau souffle. Ce qui les soulage, c'est qu'on aborde la question à travers leur sentiment d'impuissance, d'incompétence ou leur sentiment d'être dépassé. On leur dit « Hey, vous n'avez pas tort. On vit dans un système brisé. Et ce que vous vivez, ce n'est pas unique à vous. » À l'origine de cette initiative qui met à l'honneur la résistance devant l'absurdité bureaucratique, il y a la perte de sens qu'a éprouvé lui-même le chercheur après 2 décennies à se pencher sur des crises qui ne font que s'amplifier. Après près de 20 ans à travailler sur les problèmes sociaux, j'avoue que je me suis retrouvé moi-même un peu désabusé, désenchanté, explique celui qui est aussi professeur associé à l'École de travail social de l'UQAM et membre de l'Observatoire des profilages. Avec la pandémie et l'explosion des problèmes, je me suis senti comme un témoin un peu impuissant. Je me suis demandé comment ressaisir la chose autrement, raconte le sociologue dont les recherches-actions ont des visées de transformation sociale. Amateur de science-fiction, Guillaume Ouellette a découvert en 2022 le courant Hope Punk, qui a gagné en popularité à l'ère de Trump et du désenchantement, alors que tant de gens sont en quête d'espoir et de moyens de résistance. Le Hope Punk, c'est vraiment prendre à contre-pied toutes les œuvres sur la dystopie et dire « La réalité ressemble déjà à une dystopie. Ne pourrait-on pas se réenchanter autrement ?» C'est remettre notamment la dignité des personnes de l'avant et susciter l'espoir malgré les situations difficiles. L'idée n'est pas d'avoir une vision tout en rose, mais de faire quelque chose. Le chercheur a été particulièrement interpellé par la bienveillance radicale au cœur de l'imaginaire Hope Punk. L'expression qui allie 2 concepts en apparence contradictoires l'a d'abord fait sourire. La bienveillance est généralement associée à la douceur, la patience, l'engagement relationnel, alors que la radicalité évoque une posture tranchante, sans compromis et sans appel. Au départ, le chercheur était lui-même trop déprimé devant l'état du monde pour voir là un remède potentiel. C'est en documentant avec son équipe la pratique de Sylvain Picard, un psychoéducateur à la retraite qui a accompagné pendant plus de 20 ans des personnes en situation d'itinérance autiste ou ayant une déficience intellectuelle, que l'idée lui est revenue en tête. On s'est rendu compte que la magie de sa pratique, c'est la bienveillance radicale qu'il met de l'avant. Loin d'être une simple posture morale paternaliste, cette bienveillance radicale est une manière de rencontrer l'autre, de refuser l'indifférence, de toujours chercher à créer du lien dans un système brisé qui laisse en plan une frange croissante de la population. Guillaume Ouellette a ainsi uni ses 2 passions, la science-fiction et la sociologie, dans un même projet proposant aux intervenants démobilisés ou cyniques d'imaginer une autre façon de faire. Ça craque de partout. Est-ce qu'on continue de se comporter comme si de rien n'était ou on essaie d'agir? À l'instar de Don Quichotte, que le chercheur considère un peu comme le grand-père du Hope Punk, les intervenants sont invités à refuser le désenchantement de leur époque, à défier le système pour ne jamais laisser les petites cases l'emporter sur les idéaux d'équité et de dignité humaine. à ne pas considérer les ratés du réseau de la santé et des services sociaux comme des cas isolés ou une fatalité, à ne jamais s'habituer à la banalité du drame, à toujours s'indigner devant la situation d'extrême précarité d'humains largués dans le labyrinthe bureaucratique. Vous écoutez « Don Quichotte et la bienveillance radicale », un texte de Rima El Khoury, paru le 16 février 2025 dans la presse. Ça revient à « L'homme révolté » de Camus, souligne le sociologue. C'est exactement ce qu'il décrit. Ne pas faire avec l'absurdité de la vie comme si de rien n'était. Camus parle de révolte. J'aime mieux parler d'indignation. Je trouve que c'est la bougie d'allumage pour faire autrement. Une telle approche nécessite forcément du courage de la part de ceux qui choisissent de défier le système pour mieux accompagner les personnes vulnérables et faire respecter leurs droits. Le conformisme est une voie plus facile à emprunter. Le chercheur espère néanmoins démontrer que ça vaut le coup d'agir ainsi, tant d'un point de vue humain que d'un point de vue économique. Car la gestion actuelle, qui néglige la prévention et entraîne une spirale sans fin de portes tournantes, n'a rien d'optimal, rappelle-t-il. Ça me choque beaucoup quand on dit « Ah, on n'a pas les budgets ». Le fait est que ça coûte hyper cher de laisser aller les choses comme on le fait actuellement. Au final, ce serait pas mal moins cher si on s'occupait de ces personnes au lieu de les faire tourner à l'hôpital, en prison, dans la rue, de façon cyclique et continue. Résistance 101. À quoi ressemblent concrètement les pratiques de résistance proposées aux intervenants sociaux par le chercheur du CREMIS, Guillaume Ouellet? Voici quatre exemples d'écarts volontaires aux normes bureaucratiques et d'intervention dans des cas où ces normes nuisent à l'accompagnement d'une personne en situation d'extrême précarité. 1. Garder un dossier ouvert. Dans le réseau de la santé et des services sociaux, un refus de service est souvent interprété comme une non-demande, conduisant à la fermeture rapide d'un dossier. Or, ce réflexe institutionnel ignore le fait que le refus n'est pas nécessairement définitif. Il peut constituer une stratégie de survie pour une personne vulnérable qui, à force de se voir imposer des solutions, faisant fi de ses besoins réels, se méfie du système. Garder un dossier ouvert, même en l'absence de demande explicite, permet de préserver une porte d'entrée vers un accompagnement futur. En choisissant de ne pas céder à l'injonction de « faire vite », des intervenants parviennent à écouter réellement les personnes et à développer avec elles des solutions durables. 2. Du lien avant des soins et des statistiques. Dans un cadre institutionnel standard, les interventions doivent être mesurables, quantifiables et justifiables. Passer du temps avec une personne sans objectif précis peut être perçu comme une perte d'efficacité. Pourtant, le lien de confiance est une condition préalable à toute intervention. Les trajectoires de vie ne suivent pas un modèle linéaire et chaque personne avance à son propre rythme. Dans ce contexte, la construction du lien est un objectif légitime en soi et un café avec une personne en situation de précarité pour prendre de ses nouvelles devient un acte de résistance. Afin de prendre le temps nécessaire pour bâtir un lien de confiance, l'intervenant peut faire alliance avec son gestionnaire en proposant de revenir au fondement de la mission du réseau public qui devrait faire passer la dignité humaine avant toute chose. Il y a des gestionnaires qui embarquent dans la proposition. Je trouve ça rassurant, souligne Guillaume Ouellet. Autrement, il s'agit d'être un peu délinquant et de dire « Ben oui, mes stats sont moins bonnes ce mois-ci. » Mais la qualité de l'accompagnement est certainement meilleure. 3. participer à la réduction des méfaits. Le réseau adopte souvent une approche normative et conditionnelle de l'aide, imposant des règles strictes, abstinence pour accéder à un logement, suivi obligatoire pour recevoir un service, etc. On sait toutefois que la réduction des méfaits, une approche pragmatique à visage humain qui consiste à réduire les conséquences négatives liées à l'usage des drogues plutôt qu'à exiger d'emblée l'abstinence, a fait ses preuves. Contrairement à une idée reçue, cette approche n'encourage pas le maintien de comportements jugés problématiques. Elle permet d'amorcer un changement, mais à un rythme réaliste et adapté aux capacités et à la situation des personnes concernées. 4. Le courage de faire équipe. Le travail en vase clos entraîne une fragmentation de l'offre de services. Un intervenant peut être contraint de ne s'occuper que d'un enjeu précis, logement, emploi, santé mentale, etc., sans considérer la situation d'une personne dans son ensemble. Au-delà de l'exercice de son mandat strict, un intervenant doit pourtant chercher à travailler avec d'autres acteurs pour proposer un accompagnement global, quitte à contourner certains cloisonnements institutionnels. Un intervenant qui travaille en équipe ne va pas au-delà de son mandat, une expression que le chercheur entend souvent et qui l'irrite. Quand tu fais ton travail, tu le fais. Ce n'est pas au-delà de ton mandat, faire plus que le minimum requis. Si une personne a plusieurs plans d'intervention, quelqu'un doit démêler et arrimer le tout pour elle. C'est une forme de courage en intervention de dire « On va mettre en place un filet de sécurité avec des acteurs qui sont coordonnés et non juxtaposés. » Dans tous les cas, il ne s'agit pas de déroger aux normes des ordres professionnels, mais bien de faire des choix éthiques pour contourner les rigidités du système et ainsi mieux répondre aux besoins des personnes concernées. C'était « Don Quichotte et la bienveillance radicale », un texte de Rima El-Khoury, paru le 16 février 2025 dans La Presse.
Amnesty International dénonce à son tour la situation des travailleurs temporaires. Un texte de Lisa-Marie Gervais, paru le 30 janvier 2025 dans Le Devoir. Le programme des travailleurs étrangers temporaires, PTET, du Canada, expose les migrants à de l'exploitation au travail et à des violences physiques et psychologiques, conclut Amnesty International dans un rapport rendu public le 30 janvier 2025. Accusant le Canada de fermer les yeux, l'organisme de défense des droits de la personne demande au gouvernement fédéral de procéder à une refonte complète du PTET et de ne plus délivrer de permis de travail fermés qui précarisent et asservissent les travailleurs, lesquels sont en grande partie des personnes racisées. Nous sommes comme des esclaves liés à un employeur. C'est de l'esclavage moderne, indirectement. Soutient d'ailleurs Stacy dans le rapport intitulé « Le Canada m'a détruite, exploitation des travailleuses et travailleurs migrants au Canada ». Au total, 44 entretiens, 21 au Québec et 23 en Ontario, ont été menés entre février 2023 et juin 2024 auprès de travailleuses et travailleurs migrants de différentes nationalités. Les témoignages très évocateurs dépeignent sans détour une réalité troublante. Certains de ces migrants ont été exploités et ont subi des violences physiques, sexuelles et psychologiques. Les travailleurs interrogés, dont l'identité est protégée, disent avoir été sous-payés, voire ne pas avoir été rémunérés. Plusieurs affirment avoir travaillé comme une machine et déplorent les conditions dangereuses de leur labeur, souvent effectuées avec de l'équipement inadéquat. Ils racontent avoir vécu dans des logements insalubres, infestés d'insectes et de moisissures, sans eau potable. D'autres parlent de violences physiques et psychologiques s'apparentant à de la torture. près de 40 % des répondants auraient fait l'objet de cris, d'insultes ou de propos racistes et xénophobes. Éric, un ressortissant guatémaltèque avec un visa de travail de 2 ans dans l'agriculture, a indiqué qu'il était appelé régulièrement « âne » ou « indien » au lieu d'être appelé par son nom. On lui disait également des choses comme « tu es de la merde ici, tu es pire que la diarrhée », lit-on dans le rapport. Carlos a rapporté que son employeur traitait souvent ses collègues et lui d'animaux, leur disant que « si ça ne vous plaît pas ici, retournez dans votre pays ». Ce travailleur guatémaltèque se serait enfui de la ferme où il travaillait après avoir été agressé physiquement par son employeur. Celui-ci l'avait empoigné et poussé en criant et en menaçant de le gifler. Ensuite, il avait mis ses mains autour de son cou et l'avait sorti et jeté par terre, puis l'avait forcé à rester assis sur une chaise dans le froid pendant 2 heures. Le problème des permis fermés. Amnesty International note que les permis de travail du PTET sont temporaires et fermés, ce qui ne permet pas à un travailleur de changer d'employeur en cas de mauvais traitement. L'organisme de défense des droits de la personne demande donc que le programme fédéral accorde d'emblée des permis ouverts et que davantage d'inspections soient effectuées sur le terrain. Selon Amnesty, le PTET est explicitement conçu pour des travailleurs migrants provenant de pays du Sud à faible revenu, pour la plupart des personnes noires ou latino-américaines, entre autres populations racisées. En 2023, l'immense majorité, 70 % des 183 590 permis accordés l'ont été à des personnes originaires du Mexique, de l'Inde, des Philippines, du Guatemala ou de la Jamaïque. Dès sa conception, le gouvernement destinait le PTET à offrir des visas liés à un employeur à des travailleuses et travailleurs peu spécialisés de pays en développement, avance l'organisme à la lumière de documents gouvernementaux qu'il a consultés. Le Canada aurait été au fait de la situation, mais n'aurait procédé à aucun changement systémique des politiques. Il bafoue ainsi de nombreux pactes et conventions internationales auxquels il souscrit. Amnesty International demande également aux provinces, dont le Québec, de permettre aux travailleurs étrangers temporaires d'être syndiqués et réclame que leurs plaintes soient traitées sans délai par les tribunaux compétents. C'était Amnesty International dénonce à son tour la situation des travailleurs temporaires, un texte de Lisa Marie Gervais, paru le 30 janvier 2025 dans Le Devoir.